Pauline Pucciano, Paradict, 30 décembre 2071. Rumeur de dissension au sein du nouveau gouvernement. Sixième extinction massive, disparition officielle des crevettes nordiques. Famille Costa, la WA dans le sang. Depuis qu'il avait appliqué, avec plus d'instinct que de stratégie, la politique de la chaise vide, Terence s'était enfermé chez lui. Pendant les premières heures, il avait coupé toute connexion avec l'extérieur et s'était assis dans l'obscurité. Et il avait laissé passer, dans son esprit en proie à un bouleversement sans précédent, la vague monstrueuse de l'événement. Il fallait s'habituer à l'idée, c'était la première chose, il le savait, on ne pouvait réfléchir qu'après. Mais s'habituer à l'idée lui avait pris du temps, plusieurs heures, toute la soirée, toute la nuit. Et ce ne fut qu'au matin d'une nuit insomniaque, entrecoupée de rêves glacés, qu'il s'était senti « après », c'est-à-dire dévasté, méconnaissable de l'intérieur, ruiné, mais revenu à une forme de stabilité mentale. La fatigue paralysait presque son corps, tandis que son esprit, ravivé par le jeûne, lui paraissait plus vif. Quant à son cœur, il en contemplait les débris avec une forme de méchanceté. Il ne savait pas s'il souffrait davantage de son amour-propre ou de sa philanthropie. Tous ses sentiments semblaient blessés en même temps, dans une attaque simultanée extraordinairement coordonnée et puissante. Ce qu'il éprouvait pour Elsie n'avait pas de nom. Il ne savait même pas si c'était encore un sentiment humain. C'était une rancune profonde, un sentiment d'étrangeté radicale, une terreur presque physique. Le fait qu'elle ait été sa maîtresse, qu'elle soit encore sa fiancée, ce mot le fit rire d'un rire amer, était devenu anecdotique. Elle n'était plus que la tête de pont de l'autre, de la chose qui avait pris possession d'elle et qui était en train de prendre possession du monde. Léviathan, dans son imagination fiévreuse, prenait une dimension satanique et Terence laissait dériver son imagination sur le dos écumant des chevaux de l'Apocalypse. Lorsque le matin fut installé, il secoua sa torpeur, se força à manger des biscuits secs et prit une douche. Il ne savait pas ce qu'il ferait aujourd'hui. Il ne savait même pas s'il survivrait à cette journée. Mais il savait qu'il voulait rester debout, la tête haute, rasé de près, quoi qu'il dût affronter. S'il avait de nouveau à peu près confiance en ses propres capacités, il doutait de tout ce qui concernait le monde extérieur. Il se pouvait qu'Elsie le fît tuer. Il se pouvait qu'une purge ait déjà commencé. Il se pouvait que d'autres mesures s'ajoutant aux premières continuent à dérouler leur symphonie infernale. Il aurait certes pu se connecter, et il le ferait certainement quand il serait prêt, mais il avait besoin de temps encore, de beaucoup de temps, pour digérer l'information. Il supposait que les médias seraient lents à réagir. Ces mesures étaient certes de nature polémique, mais elles ne susciteraient pas de levée de boucliers. Les gens mettraient du temps à comprendre ce dont il s'agissait. Léviathan était encore à moitié secret, et personne ne songerait que ces mesures, loin d'être mûries dans la tête responsable de la secrétaire générale, avaient été pondues par un cerveau de carbone. Les communicants feraient leur travail. Ils avaient le don de transformer la boue en or et d'entretenir les mirages aussi longtemps que les gens avaient envie d'y croire. Et qui aurait envie de croire que la démocratie vivait ses dernières heures et qu'on venait d'assister au soubresaut qui annonçait son agonie? Personne. À part quelques groupuscules sans audience et quelques politiciens comme lui à qui on n'apprenait pas à faire la grimace. Mais parmi ceux-là, combien l'avaient imité et avaient quitté la salle du conseil? Il ne le savait pas, mais il le devinait. Au mieux, on n'en pensait pas moins. S'il devait y avoir une résistance, elle arriverait trop tard, beaucoup trop tard. Et puis, tout le monde était devenu si pessimiste. Après tout, la dictature au nom de la survie de l'espèce, c'était un argument que certains approuveraient. Comme il en avait eu l'habitude pendant un demi-siècle, il se mit à écrire pour mettre de l'ordre dans sa tête. Prenant soin de ne pas se connecter, il ouvrit son traitement de texte et écrivit d'abord, presque d'une traite, sa lettre de démission. « Madame la secrétaire générale, c'est avec beaucoup de regret que je me vois contraint de vous présenter ma démission. » Il n'y aurait pas de soulèvement populaire, pas de résistance de l'appareil. Tout était donc probablement perdu, à moins que... à moins que quelqu'un ne parvînt à détruire le mal à la racine, à détruire la bête. Mais comment y parvenir? Léviathan était dans une salle attenante au bureau palatin. Elsée était beaucoup trop intelligente pour le laisser, lui, Terence, en capacité de le faire. Il devrait s'estimer heureux s'il était libre de circuler, mais quant à jouir de la confiance d'Elsée, cela n'arriverait plus jamais. Les fonctions de porte-parole du gouvernement exigent, ce me semble, une loyauté sans faille ainsi qu'une adhésion suffisante au programme politique mis en place. L'idée de cet attentat contre la machine, si maigre, insolite et irréaliste qu'elle fût, constitua malgré tout un soutien qui lui permit d'envisager, avec un peu plus de courage, sa propre situation. Il ne savait pas par où commencer. La première chose était sans doute de terminer sa lettre de démission du poste de porte-parole du gouvernement. Il pouvait peut-être sauver quelque chose de leur mariage, mais leur collaboration politique, clairement, avait vécu. Si ma loyauté personnelle, croyez-le, est inchangée, vous ne serez pas surprise de lire que mon adhésion au programme politique que vous souhaitez porter n'est à ce jour plus suffisamment forte pour me permettre de poursuivre dans ma mission. Les options qui s'ouvraient devant lui n'étaient guère réjouissantes. Il pouvait choisir de suivre sa conscience et rompre en visière avec Elsée, fuir en Angleterre ou ailleurs, soit en partant maintenant, soit en prévenant Elsée et en essayant de la persuader qu'il n'était pas dangereux pour elle. Elle jouerait probablement les grands seigneurs, mais il vivrait avec le fil d'une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Elsée, après mûre réflexion, mon exil me semble être la meilleure solution pour toi comme pour moi. Je ne ferai en restant que porter une ombre sur la période qui s'ouvre pour toi. Et moi, je ne pourrai que me sentir tiraillée entre le succès que je te souhaite très sincèrement et les réserves que m'inspirent certains aspects de ton programme. La deuxième option était d'essayer de la tromper. Il ignorait s'il en était capable, et si elle venait à le découvrir, c'était certainement l'option la plus dangereuse. Cette option offrait des avantages, rester informé, proche des cercles du pouvoir, et peut-être capable d'agir au moment opportun s'il s'en présentait un. Elle offrait aussi des inconvénients. Il faudrait composer avec la bête, et continuer à voir Elsée, faire l'amour avec elle, se marier peut-être. Elsée, pourras-tu me pardonner l'emportement stupide qui m'a fait quitter la salle du conseil sans me préoccuper des conséquences désastreuses de ce mouvement d'humeur sur notre image? Tu connais ma passion, tu connais mes convictions humanistes et ma réserve concernant Léviathan, et je ne vais pas te surprendre en te disant que j'ai besoin de temps. De temps pour comprendre ta logique, pour la faire mienne, pour... L'histoire le retiendrait alors comme un membre du clan Costa, le mari de la dictatrice. Cette pensée l'emplissait de rage, et il effaça les dernières lignes avec hargne. Enfin, il pouvait immédiatement prendre les armes, diffuser un communiqué de presse tant qu'il en avait encore le temps, alerter les journalistes. Cette dernière solution était si tentante. Envoyer tout valser, affirmer sa singularité, rester en phase avec ses convictions. C'était un chant du cygne magnifique, comme il n'en avait pas espéré. Mes chers concitoyens, il me faut toute la lucidité acquise par ma longue expérience politique et tout le courage que m'inspirent mes convictions pour vous presser de me croire et de peser chaque parole que je vais prononcer ce soir. Elsée Costa a été promue au pouvoir sur les conseils d'une machine, une intelligence artificielle du nom de Léviathan. Une question le taraudait et le retenait, comme une bride contient un pur sang. Est-ce que cette posture héroïque serait utile? À lui sans doute, elle lui donnerait le privilège de mourir rapidement et avec la conscience tranquille. Mais aux autres. Il ne s'aperçut pas que le sommeil le prit, et ne fut pas surpris de se trouver face à Elsée, vêtue d'une longue robe de satin rouge, qui lui tendait avec insistance un livre ancien semblable à un grimoire ésotérique. Terence reculait, horrifié, conscient qu'il s'agissait d'un livre de Thomas Hobbes, et Elsée éclatait de rire, renversant la gorge et montrant des dents animales. Terence alors s'apercevait de la présence d'une bougie noire et tentait de mettre le feu au livre, mais pour une raison qu'il ne s'expliquait pas, le papier ne brûlait pas et c'était lui qui prenait feu. La douleur imaginaire l'éveilla dans un cri. L'appartement, indifférent à l'état de conscience de son occupant, demeurait éternellement silencieux. Terence relut les quelques lignes commencées, puis ferma le fichier, se leva et fit les 100 pas, avant de s'arrêter devant son bonsaï, qui paraissait un peu sec. Après l'avoir arrosé, il saisit les petits ciseaux et se mit à tailler, avec beaucoup de délicatesse, les pousses qui menaçaient l'harmonie de sa forme vénérable. Ce travail lui fit du bien. Et il fut presque sur le point de fuir, de trouver quelque part un jardin à cultiver, lorsque la sonnette retentit. Il attendit, figé, les ciseaux à la main, mais la sonnette retentit à nouveau, puis encore et encore. Il finit par déposer les ciseaux et crier d'une voix ferme « J'arrive !» Il ne savait pas à quoi il devait s'attendre, probablement des hommes en noir chargés de le mettre à l'arrière d'une voiture électrique pour une destination inconnue. Il éprouva une certaine reconnaissance envers sa propre prévoyance, en songeant qu'il était impeccablement rasé. Puis il ouvrit la porte et ne cacha pas sa surprise lorsqu'il se trouva en face de Karl Courseul. Courseul était un homme des couloirs, un homme des bureaux, bref, un homme d'intérieur, qu'on ne voyait que rarement en dehors des locaux de la WA. Terence resta immobile une seconde de trop avant de l'inviter à entrer du ton le plus affable possible. Courseul, qui ne se départait jamais de son aisance, paraissait trouver la situation tout à fait naturelle. C'était d'ailleurs pour cela qu'Elsie l'avait envoyé. « Ainsi, vous êtes le diplomate désigné ?» demanda Terence, en risquant une pointe d'humour. Courseul parut soulagé du ton que prenait le début de leur entretien et lui adressa un sourire plein de dents qui rappela désagréablement à Terence la bouche canine d'Elsie dans son rêve. « Il fait très chaud dehors. Vous auriez un rafraîchissement à me proposer ?»« Bien sûr, » fit Terence. Le ton était donné, c'était celui de la courtoisie, celui de la visite de politesse. Il avait suffi de quelques mots. Tout en préparant un verre de jus de fruits, Terence surveilla, par la porte entrebâillée de la cuisine, les mouvements du conseiller en communication. Ce dernier avait tout de suite regardé sur l'ordinateur, mais il n'osa pas manipuler la souris et fouiller dans les fichiers récents. Il n'avait pas dû lui échapper que l'ordinateur était hors connexion, et, fort heureusement, Terence avait fermé la fenêtre de son traitement de texte. Tout en versant lentement le jus dans deux verres, il tenta d'analyser les tenants et les aboutissants de ce coup. Le déplacement de ce cavalier paraissait innocent, mais correspondait bien sûr à une stratégie plus large qu'il lui appartenait de découvrir. Karl Courseul, tout en jetant des yeux curieux sur l'appartement du vieil intellectuel, se remémorait son vade-mecum. Il était toujours capital de savoir avec clarté où l'on allait avant de s'engager dans un entretien. « Je ne peux pas me permettre qu'il me fasse défaut ces jours-ci. À tout prix, il faut qu'il tienne jusqu'au mariage, sans esclandre, avec un service minimum de présence. Après le 27, j'en fais mon affaire. Obtenez-moi un statu quo jusque-là. » Karl était tout à fait d'accord sur la ligne de communication. Une rupture publique avec Terence, 12 jours avant le mariage, serait un coup très dur, peut-être fatal. Terence ne le savait peut-être pas, mais il était en position de force sur ce sujet, car Elsie ne voulait surtout pas prendre ce risque. Elle était dans une dynamique ascendante, avec le ralliement du Parti de l'Innovation et plus récemment des antispécistes, depuis l'annonce de la réduction démographique. On murmurait que les génistes étaient sur le point de proposer un ralliement, à la condition qu'on propose une généralisation de l'avortement thérapeutique en cas de fœtus délicat. Si elle parvenait le coup de force de faire rendre les armes à 2 groupes terroristes dans la même semaine, elle pouvait tout espérer. Mais pas sans le soutien de l'aile conservatrice. Il fallait que Terence apporte sa caution morale, même du bout des lèvres, même silencieusement. Il fallait qu'il se marie. Les jus de fruits, comme dans une mise en scène mal orchestrée, mirent du temps à arriver, et les deux hommes étaient tous deux plongés dans leurs réflexions lorsqu'ils furent obligés de reprendre leur dialogue. « Je suppose que vous venez chercher ma lettre de démission ?» demanda Terence pour entrer dans le vif du sujet. « Rien ne presse, mon cher Terence, ce n'est pas la raison de ma visite. » Courseul prit le temps de boire un quart de son verre avant de planter amicalement son regard dans celui de Terence. « Elsie est très inquiète de votre réaction. » Il avait parlé avec une sorte de bienveillance paternelle, du ton dont on réprimande un jeune homme qui exagère, mais pour lequel on a toutes les indulgences. Terence s'était donné pour principe d'en dire le moins possible et ne tomba pas dans le piège. « Que vous a-t-elle demandé de venir me dire ?»« Elle souhaite connaître vos intentions, bien entendu. Elle a pris votre départ précipité sur un plan très personnel. » Terence sourit intérieurement. Courseul pensait-il vraiment qu'il allait gober ça ? Il essaya de gagner du temps. « Mon geste l'a beaucoup surprise ? Beaucoup peinée, surtout. Elle se doutait un peu que vous ne seriez pas totalement en phase avec ses annonces, mais elle ne pensait pas que vous vous lanceriez dans une fronde ouverte. Elle en souffre beaucoup. « Une fronde ouverte ?» répéta Terence. « Mais oui, c'est ainsi que votre geste a pu être interprété. Je suis sûre qu'il s'agit d'un regrettable malentendu. » Terence observa un long silence avant de répondre. « Vous voyez ce bonsaï ? » dit-il pour gagner du temps. « Oui, il est superbe. » « Il a résisté, dit-on, à Hiroshima. C'est un érable ? Un pin blanc du Japon. Surprenant. Vous comprenez, Elsie et moi n'avons pas une relation ordinaire. Il est très difficile pour moi de faire la part entre le politique et le personnel avec elle. « Cela peut se comprendre, dit prudemment Courseul. Vous travaillez en étroite collaboration. » « En effet, mais les secrets d'État restent des secrets d'État, dit Terence d'un ton philosophe. Il ouvrit la bouche comme s'il allait parler, puis, exprès, se tut. Il repensa au père Grandet, qui, dans le roman de Balzac, faisait semblant d'être bègue pour remporter les négociations commerciales. « Quel était le sens de votre acte, Terence ? S'agissait-il d'une fronde ouverte, ou bien puis-je porter à Elsie une meilleure nouvelle ?»« Je vous l'ai dit, Karl, le personnel et le politique se chevauchent. Le moindre désaccord politique prend une résonance personnelle. » Nos fiançailles agissent comme une caisse de résonance. C'est ennuyeux, observa Courseul. Très, approuva Terence. C'est pourquoi je persiste à penser que je ne dois pas assumer les deux rôles auprès d'elle. Et elle serait d'accord avec vous, je pense. Vous ne me demandez pas lequel des deux rôles je compte abandonner ? J'espérais que vous me le diriez de vous-même. Lequel souhaite-t-elle me voir abandonner ? Karl Courseul hocha la tête. « Vous posez mal la question, car Elsie souhaiterait plus que tout que vous puissiez la seconder à la fois dans la vie et dans son travail. Mais cela ne semble plus possible, ce qu'elle déplore. Elle souhaite donc que je reste son amant, et bientôt son mari, et que je disparaisse de l'orbite politique. Encore une fois, Terence, vous présentez les choses sous un jour vraiment défavorable. Il n'est pas question que vous disparaissiez brutalement de l'orbite politique. Non, bien sûr, pas brutalement. « Dites-moi, conserverai-je une certaine liberté de parole ?»« Tous ces collaborateurs sont soumis à certaines règles de communication pour la cohérence de la ligne. »« Mais si je ne suis plus un collaborateur ?»« Je vous l'ai dit, vous n'allez pas disparaître brutalement. »« Et pour la cohérence de la ligne, je suis sûr que vous avez déjà pensé à quelques actions de communication m'impliquant dans les prochains jours ?» Karl Courseul hésita, puis répondit franchement. Il faudrait que vous participiez à une nouvelle séance du conseil, d'un bout à l'autre, une seule fois, sans manifester de désaccord. Et puis, que vous fassiez acte de présence lors de la conférence de presse. « Je ne souhaite pas demeurer porte-parole, » dit Terence. Courseul parut embarrassé. « Vous ne vous êtes vraiment pas connecté depuis hier ?»« Quoi » fit-il. « Elle m'a déjà remplacé ?»« Oui, c'est Frédéric Johnson qui a été nommé. » « Elle ne perd pas de temps. Elle ne peut pas se le permettre. Ce sont les intérêts de la WA qui sont en jeu. »« Bien sûr, bien sûr. » Terence se leva et fit les 100 pas. « Quelle raison a été invoquée ? » demanda-t-il. « Pour le moment, aucune. Nous attendions de nous entretenir avec vous. »« Quelle raison aimeriez-vous pouvoir invoquer ? » ?»« Le conflit d'intérêts entre la position de futur mari et les responsabilités au gouvernement. » Vous apporteriez ainsi votre caution morale par votre seule présence sans avoir besoin de parler contre vos convictions. N'est-ce pas ce que nous pourrions tous souhaiter de mieux ? Terence éclata d'un rire amer. Et si ma fierté ne s'accommode pas de ce rôle muet ? La fierté n'a plus son mot à dire quand l'amour a parlé, dit sentencieusement Courseul. C'est une simple hypothèse, Karl. Toutes les hypothèses ne sont pas bonnes à examiner. La menace était très claire. Du moins, suffisamment clair pour Terence. Elsie lui proposait le mariage et le silence. Ce qui lui arriverait s'il refusait l'un ou l'autre, Courseul ne l'estimait pas bon à examiner. « Je ne suis pas d'accord avec vous, Karl. Il faut toujours examiner toutes les hypothèses. C'est un principe absolu en politique. Et je suis sûre qu'Elsie les examine toutes, quoi que vous en disiez. » Karl Courseul eut un sourire forcé, large et figé. « Je crois que votre rôle s'arrête là, Karl, et ne vous méprenez pas, vous l'avez joué à la perfection. Dites à Elsé que j'attends son coup de fil. » Évidemment, rien ne vaut la communication directe, je l'ai toujours pensé. Mais Elsé n'avait probablement pas le temps de venir aujourd'hui, elle doit être très occupée. En effet, elle recevait la délégation d'outre-Atlantique. Et elle s'est séparée de vous à cette occasion ? J'en suis flattée. Je lui dirai de vous appeler dès que possible. Je vous remercie pour le rafraîchissement. Qu'elle ne tarde pas à m'appeler, dit encore Terence. Et merci à vous pour votre visite. Je me sens beaucoup mieux. Coursol et lui renchérirent encore dans l'amabilité jusqu'à son départ. Dès que Terence se retrouva seul, il reconnecta son téléphone et s'allongea sur son lit, épuisé. Cette fois, Elsé, en robe blanche, le chevauchait, tout en l'embrassant à pleine bouche. Il n'éprouvait pas de désir, hormis celui de parler. Il avait envie de lui demander dans quelle maison il se trouvait, car il ne reconnaissait pas l'espace autour d'eux. Mais la langue mobile et puissante de la jeune femme le bâillonnait. Arrivait ensuite Karl Coursol, déguisé en prêtre, qui prononçait les mots du sacrement du mariage. Terence voulait signaler que, n'étant pas croyant, il ne souhaitait pas se marier à l'église, et comprenait que c'était là qu'il se trouvait, dans une église, mais Elsé ne détachait pas sa bouche de la sienne. Lorsque vint le moment de dire « oui », il ne put qu'émettre un grognement. Le rêve devenait plus franchement érotique, et il se rendait compte alors que l'église était pleine, qu'il était allongé dans un cercueil, et que tout le monde applaudissait. Lorsqu'Elsé atteignit l'orgasme, avant lui, les spectateurs firent une véritable ovation et il reconnut parmi eux les frères Costa, Kim Cooligan, Curtis Anglione et, dépassant d'une tête tous les autres, Frédéric Johnson.